Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. 3 ans après avoir voté pour la sortie de l'Union européenne, les Britanniques vont-ils être de nouveau appelés aux urnes pour le Brexit? Theresa May, en tout cas, joue son va-tout et propose aux députés de se prononcer sur la tenue d'un second référendum. On sera à Londres dès le début de ce journal. On tentera aussi de décrypter la décision de la Cour d'appel de Paris qui, à la surprise générale, hier soir, a ordonné la reprise des traitements de Vincent Lambert. Ce sera David contre Goliath, elle le sait, pourtant la famille française d'une des victimes du crash d'Ethiopian Airlines décide de porter plainte contre Boeing. Virée parce qu'elle refusait de travailler le dimanche. On entendra l'une des salariées de l'hypermarché Cora de Saint-Malo, licenciée après 18 ans de bons et loyaux services. Le foot, Didier Deschamps qui appelle 3 petits nouveaux en équipe de France. Cannes, Tarantino, Brad Pitt, DiCaprio. Sacré casting ce soir sur la Croisette où l'on retrouvera Mathieu Charrier. Côté météo, la journée de demain sera encore contrastée avec du beau temps sur le sud et dans l'est. Quelques nuages entre la pointe bretonne et la région centre. Beaucoup plus le long de la Manche, des nuages qui vont gagner la région parisienne et la Normandie progressivement. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le fondateur de Founders Future, Marc Ménazé, qui aide les startups à se développer.
Europe 1.
Theresa May tente donc toujours de sortir de l'impasse. La première ministre britannique a proposé 2 choses ce soir aux députés. Voter un nouvel accord de Brexit et voter sur la tenue d'un second référendum sur le Brexit. Pierre Herbulot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
C'est la tentative de la dernière chance, selon les mots mêmes de Theresa May. Les députés ont déjà rejeté ses 3 premières propositions d'accord sur le Brexit. Alors la première ministre britannique fait des compromis. Si sa nouvelle proposition de sortie de l'Union européenne est acceptée début juin, non seulement le Royaume-Uni restera quelques années supplémentaires dans l'union douanière, mais surtout, les députés auront la possibilité de voter sur la tenue d'un 2e référendum sur le Brexit. Avec cette possibilité dans la balance, Theresa May espère récupérer les voix de ceux qui voulaient rester dans l'UE, des voix qui lui manquent pour obtenir la majorité et enfin faire passer son texte. Pour l'instant, le Brexit est programmé au 31 octobre, mais la date pourrait être avancée en cas d'accord. À votre tour de faire des compromis, a lâché la première ministre britannique aux parlementaires.
Pierre Herbulot, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. En France, on est à 5 jours maintenant du vote pour les européennes, alors que les Britanniques, eux, votent jeudi. Nous devons davantage nous tourner vers les pays de l'Est. C'est ce que dit aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, en particulier vers la Pologne, qui, dit-il, sera demain une des grandes nations européennes. La France, ajoute-t-il, a méprisé la Pologne et elle a eu tort. Ce soir, les différentes têtes de liste lancent leur dernière force dans la bataille. Dernier sprint pour Nathalie Loiseau, François-Xavier Bellamy, Yannick Jadot ou Raphaël Glucksmann en meeting pour convaincre les derniers indécis. Et puis il y a un homme qui sort de son silence ce soir, c'est Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste qui n'est plus tenu à la réserve depuis sa sortie du Conseil constitutionnel. Il annonce son intention de voter pour la liste PS Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann. Un CRS renvoyé aux assises pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité. Il sera jugé pour avoir lancé une grenade de désencerclement dont l'explosion avait causé la perte d'un œil chez un manifestant. Rien à voir avec les gilets jaunes. La scène s'était déroulée lors d'un rassemblement contre la loi travail en 2016. Conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris hier soir, le CHU de Reims a donc repris aujourd'hui les traitements de Vincent Lambert, l'hydratation et l'alimentation. Les avocats des parents ont fait le déplacement à l'hôpital pour le constater, des parents qui souhaitent désormais que leur fils soit transféré dans un autre établissement, un établissement spécialisé. Et ce qui est sûr, c'est que la décision de la Cour d'appel de Paris hier soir a pris tout le monde de court, alors que ça fait des années que toutes les juridictions administratives prennent des décisions contraires. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1, on a bien besoin de vos lumières pour comprendre cet énième rebondissement. Comment la justice peut-elle ainsi dire tout et son contraire ?
Parce qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. Il y a d'un côté les tribunaux administratifs jusqu'au Conseil d'État, compétents pour tout ce qui touche au droit à la vie. Et ils ont validé l'arrêt des soins. C'est ce qui a permis de lancer lundi l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. Et puis, de l'autre côté, il y a les juges du judiciaire, compétents pour les libertés individuelles. Et comme les parents de Vincent Lambert ont saisi le comité de l'ONU sur le droit des personnes handicapées et que la France a ratifié cette convention, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'il fallait simplement rappeler la France à ses obligations et donc écouter la demande de ce comité qui a demandé un délai d'au moins 6 mois pour examiner le cas Vincent Lambert. Vous le voyez, la décision de la Cour d'appel de Paris lundi soir ne se prononce donc absolument pas sur le fond du dossier, mais concrètement, sa décision a bel et bien débouché sur la suspension de l'arrêt des soins pour Vincent Lambert. Autant dire que cela va durer encore des mois, voire des années, car il peut y avoir de nouveaux recours. D'abord, un pourvoi devant la Cour de cassation, suivi d'une éventuelle saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce n'est pas fini, parce qu'après, il faudra se débrouiller avec cette contradiction sur ce fameux comité de l'ONU. Son avis n'est pas contraignant, mais la France a quand même ratifié son texte. Et puis la question de fond, ce sera aussi de savoir quel est le droit compétent. Est-ce que dans ce cas, on parle de droit à la vie? Et alors, c'est bien le droit administratif qui prévaut, il a validé l'arrêt des soins, ou est-ce qu'on parle de liberté individuelle? Et là, c'est du judiciaire. Vous le voyez, tout cela, c'est du droit ardu, complexe, qui promet encore de longs débats devant le tribunal des conflits.
Effectivement, l'éclairage de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Il s'agit de la première plainte d'une famille française contre Boeing. Plainte déposée à Chicago 2 mois après le crash d'Ethiopian Airlines à Addis Abeba. Nadège, dont le mari fait partie des victimes, veut des explications. Elle accuse le constructeur d'avoir laissé voler ses Boeing 737 Max alors qu'il était au courant de l'existence de problèmes liés au modèle de l'appareil, Pauline Jacquot.
Oui, un message, Boeing doit assumer ses responsabilités dans la catastrophe. La compagnie américaine a reconnu ce week-end pour la première fois qu'il y avait eu des défauts dans les simulateurs de vol du 737 Max. Mais ce n'est pas suffisant, a martelé l'avocat de l'épouse de Jonathan Six, ce Suédois de 45 ans qui fait partie des 157 victimes du crash. Boeing a négligé la sécurité, dit l'avocat, au profit d'une logique purement commerciale. Très émue, Nadège Dubois-Six, la femme de Jonathan, a pris la parole. Ce drame était évitable. Boeing aurait dû tirer les leçons du précédent crash sur le même type d'appareil. Il n'y avait donc pas de fatalité dans cette catastrophe.
Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Cet avion n'aurait jamais dû décoller, mais vous savez très bien qu'un avion au sol coûte très cher. Est-ce que vous vous sentez, vous, aujourd'hui, capable de prendre un vol 737 Max ou de faire voler votre enfant? Est-ce que vous prendriez ce billet d'avion là? Bien, moi pas. J'y penserai 2 fois.
Sa plainte est la première d'une famille française dans ce dossier. Nadège Dubois-Six poursuit Boeing aux États-Unis. Une démarche individuelle qu'elle sait d'ores et déjà longue et difficile. Les avocats réclament à Boeing 276 millions de dollars, soit l'équivalent, disent-ils, d'une journée de bénéfices du géant de l'aéronautique.
Les précisions de Pauline Jacquot. Et dans un instant, ce sera la suite de votre journal et on reviendra sur cette information Europe 1. 2 salariés de l'hypermarché Cora de Saint-Malo licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h09 et nous vous le révélions ce matin, nous vous le dévoilions. 2 salariés de l'hypermarché Cora de Saint-Malo viennent d'être licenciés pour faute grave. On leur reproche d'avoir refusé de travailler le dimanche. L'une d'elles, Christelle, était l'invitée de Mathieu Béliard ce soir et pour elle, c'était tout simplement impensable de travailler ce jour-là.
J'ai refusé le dimanche parce que pour moi, le dimanche c'est sacré. Normalement, c'est la famille, c'est les loisirs, c'est la vie privée. Et pour moi, je suis contre les ouvertures
le
dimanche.
Ce directeur vous dit le dimanche c'est obligatoire, c'est comme ça. Il ajoute c'est la loi Macron et vu la conjoncture actuelle, finalement c'est un bon gagne-pain. Vous avez dit non, quoi qu'il en soit, vous avez tenu.
Voilà. Moi, je dis non, parce que la loi Macron, c'est bien marqué sur la Macron que tout refus de salarié qui s'oppose à travailler dimanche n'est pas un motif de licenciement. Ça fait vraiment du mal, dégoûté de se faire traiter comme ça au bout de 18 ans.
Vos autres collègues qui travaillent le dimanche, ils sont volontaires ou ça leur a été imposé?
Ah bah non, ils sont pas volontaires, mais elles ont peur. Il met la pression, le directeur, c'est soit ça, soit dehors. Depuis mon histoire, maintenant, il fait signer des avenants. Et si les personnes ne signent pas, c'est licenciement direct.
Christelle Laurent, l'une des 2 salariés licenciés donc pour faute grave par l'hypermarché Cora de Saint-Malo, elle était avec Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. On apprend que le patron du groupe de médias Qatari Beane ainsi que l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack ont été mis en examen fin mars. Il s'agit de l'enquête sur des soupçons de corruption en marge des candidatures de Doha aux mondiaux d'athlétisme, des pots de vin en vue de l'obtention par le Qatar de l'organisation de ces mondiaux. La liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer les prochains matchs des Bleus, on la connaît cette liste depuis aujourd'hui. Ce sera face à la Bolivie en amical, puis en Turquie et à Andorre pour les qualifications de l'Euro 2020. Et Didier Deschamps qui fait venir du 109, Cyril de la Morinerie, le sélectionneur appelle 3 petits nouveaux.
Oui, d'abord, Léo Dubois, 24 ans. Le défenseur lyonnais profite de la méforme du monégasque Djibril Sidibé pour s'inviter à Clairefontaine. Ce latéral droit de talent a largement participé à la troisième place acquise par l'Olympique lyonnais en Ligue 1. Autre nouveau, et là c'était attendu, Clément Lenglet, trajectoire assez incroyable de ce défenseur qui en quelques mois est passé de la Ligue 2 Nancy à une place de titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone. Lenglet qui remplace Kimpembe blessé, Didier Deschamps le surveillait depuis longtemps et aime particulièrement son profil.
Il a progressé énormément, il est arrivé à Barcelone, il est plus titulaire aujourd'hui que ne l'est Samuel Umtiti, mais voilà, Clément, c'est la sérénité, c'est un joueur qui a une très bonne maîtrise technique, il est propre, ça sera l'occasion pour lui de découvrir le groupe France sur ce rassemblement.
Et un dernier joueur va découvrir le groupe France, c'est Mike Maignan, élu meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs dimanche soir. Le portier lillois passe devant Steve Mandanda, le champion du monde n'a pas brillé cette saison avec l'OM et n'a donc pas été appelé.
Merci Cyril de la Morinerie. Prochain rendez-vous donc pour l'équipe de France le 2 juin en amical face à la Bolivie. Les champions du monde qui, comme prévu, recevront la Légion d'honneur. On a la date, ce sera le 4 juin. Le foot sur les terrains en ce moment. Premier match de barrage pour l'accession en Ligue 1 entre le Paris FC et le RC Lens. Et pour l'instant, c'est Lens qui domine 1-0. Olivier Giroud a annoncé aujourd'hui qu'il prolongeait son contrat avec Chelsea jusqu'à l'an prochain. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Saint-Etienne, lui jette l'éponge. C'est une confirmation sans doute pour rejoindre Montpellier, son club de cœur. En cyclisme, le Français Arnaud Démare remporte la 10e étape du Giro. Et puis en tennis, on est à 5 jours du début du tournoi de Roland-Garros avec les premiers coups de raquette pour Roger Federer aujourd'hui. Sous vos yeux, Corinne Boulou.
Oui, nous avons vu un Roger Federer détendu mais appliqué et surtout sans gêne apparente pour se déplacer. Rappelons que la semaine dernière, le Suisse de 37 ans avait déclaré forfait avant les quarts de finale du tournoi de Rome après une alerte musculaire à la jambe droite. Alors, sur les coups de midi, c'était un mini-événement que de le voir fouler pour la première fois depuis l'édition 2015 la terre battue de Roland-Garros, qui plus est sur le court Philippe Châtrier flambant neuf. Je ne vous cache pas que les tribunes vides avant l'entrée de la légende du tennis se sont peu à peu remplies. Même le directeur du tournoi Guy Forget est passé voir quelques échanges entre Roger Federer, vainqueur il y a 10 ans, et l'Argentin Diego Schwartzmann, récent demi-finaliste à Rome. Et en sortant du cours, après autographe et selfie, eh bien Roger Federer nous a livré au vol son sentiment sur le nouveau cours central de Roland-Garros. Alors ?
Hey, top ! Moi, je l'aime bien beaucoup. Merci. Ciao.
Et voilà, c'est top, dit Roger Federer, le tout avec un grand sourire.
Et ce sera top de suivre ce tournoi de Roland-Garros avec vous, Corinne Boulou, sur Europe 1, évidemment, radio officielle du tournoi à Cannes. C'était top aussi ce soir avec l'une des montées des marches les plus attendues, celle de Quentin Tarantino et de ses deux comédiens superstars, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, venus présenter le dernier film du cinéaste Once Upon a Time in Hollywood. Mathieu Charrier, une montée des marches spectaculaire pour un film spectaculaire également.
Oui Isabelle, alors une montée des marches spectaculaire effectivement, mais tout en sobriété. Hein. Tarantino, il nous avait habitués à plus rythmé, en dansant notamment sur le tapis rouge. Là, il a fait simple. En même temps, l'affiche parlait d'elle-même. DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie sur le tapis, ça en jetait. Et puis, je peux vous dire aussi, Isabelle, que ça en jette une fois dans la salle, effectivement. Faut savoir qu'il a choisi l'année 69, parce qu'elle a marqué un tournant à Hollywood, en raison notamment du massacre perpétré par les adeptes de la secte de Charles Manson. C'est donc cette année précise et cette trame de fond que prend Tarantino pour rendre hommage au cinéma hollywoodien sous toutes ses formes, celui qu'il a tant aimé à travers le parcours d'une star sur le déclin, c'est DiCaprio, et de sa doublure, jouée par Brad Pitt. Il y est donc question de série Z, de western spaghetti, de Bruce Lee aussi, tous les genres qui l'ont inspiré. Il montre aussi, vous savez, la solitude qui frappe beaucoup de personnes dans ce milieu, enfermées, seules, dans leur belle villa hollywoodienne. Le film alterne donc des scènes d'hommage au cinéma, des questionnements sur qu'est-ce qu'être acteur. C'est un film qui a le panache des Tarantino, qui dure quand même 2h39, donc je vous cache pas que je commence tout juste à m'en remettre, mais il y a aussi une once de tristesse qui est rare chez Tarantino. Il faut dire qu'il veut, à travers ce film, saluer tous ceux qui font le cinéma devant et derrière la caméra. Donc voilà, c'est une œuvre fleuve qu'il a mis 5 ans à écrire, qui sortira mi-août en France, et vraiment ça vaut le coup d'aller la voir.
Et vous en sortez donc, merci pour cette première réaction à chaud, Mathieu Charrier, envoyé spécial d'Europe 1 à Cannes. Et on jette un œil sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Et pour demain, Valérie, bien, il y a ceux qui vont avoir du soleil, et puis il y a les autres.
Et oui, du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, brumes et brouillards à prévoir demain matin dans les plaines et les vallées. Le temps est beaucoup plus nuageux à proximité du Massif central et dans le courant de la matinée, ces nuages bas vont se dissiper et le soleil revenir généreusement. De la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA, Corse et Occitanie, le ciel est très dégagé du matin jusqu'au soir, un petit peu moins dans le sud-ouest. Du centre Val-de-Loire au bassin parisien et aux Hauts-de-France, passer les brouillards du matin, surtout du centre au bassin parisien, l'après-midi est agréable et ensoleillé. Et puis des Pays de la Loire à la Bretagne, à la Normandie, beaucoup de soleil aussi, malgré un voile nuageux assez présent. Les températures du matin en baisse, entre 4 à Charleville et 15 à Avignon. Celles de l'après-midi en hausse, entre 17 à Dunkerque et 27 à Nîmes.
La météo signe Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le fondateur de Founders Future, Marc Ménazé. C'est un business angel qui aide les startups à se développer. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui continue d'évoluer au rythme de cette fameuse guerre commerciale entre Washington et Pékin.
Oui, les tensions étaient très vives hier, elles ont fait plonger les indices. Eh bien, ces tensions se relâchent ce soir. Et du coup, le Dow Jones remonte de 0,77%, 25 877 points. Le Nasdaq plus 1,08%, 7 786 points. L'administration Trump a décidé de reporter de 90 jours les mesures de bannissement contre le géant chinois des télécoms, Huawei. Huawei qui est accusé, je vous le rappelle, d'espionnage par Washington. Alors cette décision soulage les marchés qui pensent que d'ici là, un accord commercial sera peut-être conclu entre les États-Unis et la Chine. Google avait beaucoup souffert hier, obligé de couper les ponts avec Huawei. Grâce à ce répit, le titre remonte de 0,8%. Les fabricants de semi-conducteurs qui vont aussi devoir rompre leur contrat avec le géant chinois respirent un peu mieux. Qualcomm plus 1,5%, Intel plus 2%. Et puis Apple qui subit les craintes de boycott en Chine rebondit de 1,9%. Le pétrole recule, moins 0,2% pour le WTI, 62,99$ le baril. Et puis l'euro perd 0,1% et s'échange contre 1,1160$.
Et le marché parisien, Claire, remonte un peu, lui aussi, après une séance qui a été difficile hier.
Oui, à Paris aussi, les investisseurs sont rassurés par la décision de Washington de calmer le jeu face à la Chine. Le CAC 40 reprend 0,5%, 5 385 points. Ça va un peu mieux pour les semi-conducteurs. ST Microelectronics reprend tout de même 4,2% après sa chute hier. Ça monte aussi pour Alstom, plus 1,5%. Le constructeur ferroviaire a remporté un gros contrat de 360 millions d'euros en Allemagne. Il va fournir 27 trains à hydrogène à la région de Francfort qui remplaceront des trains diesel.
Et alors JC Deco aligne lui une troisième séance consécutive dans le rouge.
Oui, le numéro 1 mondial de la communication extérieure souffre. Il est pénalisé par une note des analystes de Citigroup. L'action JC Deco perd 1,8%. Et puis Boiron reste en baisse, moins 4,8%, avec toujours la menace pour le laboratoire d'un déremboursement en France des médicaments homéopathiques. Les marchés européens se reprennent, galvanisés par les signes de détente dans ce conflit entre les États-Unis et la Chine. Londres remonte de 0,2%, Francfort de 0,8%, Bruxelles reprend 0,5%, Madrid plus 0,4%, Milan plus 0,8%, et le CAC 40 rebondit de 0,5%, 5 385 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet, Claire Lemaître de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le fondateur de Founders Future.
Bonsoir Marc Ménazé.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes ce que l'on appelle un serial entrepreneur ou un business angel, si j'utilise un bon français. Vous avez fondé Founders Future. C'est un, comment on pourrait dire, une société qui permet d'aider les startups à se développer?
Bah, c'est une société, déjà c'est un vrai projet entrepreneurial qui a démarré maintenant il y a quelques mois, qui en fait, arrivé après une quinzaine d'années d'entrepreneuriat et d'investissement dans des jeunes pousses, je me suis dit justement que j'allais professionnaliser ma démarche avec une équipe pour allier capital financier au capital humain et donc aider les entreprises opérationnellement dans lesquelles on investit.
Alors, les entreprises qui sont connues, hein, je vais en citer quelques quelques-unes. Vous avez investi par exemple dans Le Petit Ballon. Alors c'est une société qui livre chaque mois des bouteilles de vin à domicile. Vous avez aussi investi dans Yuka, une application qui cartonne, qui nous permet de savoir ce qu'il y a dans les produits qu'on achète et si c'est plutôt bon ou pas. Et là, si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous investissez dans une nouvelle start-up qui s'appelle Épicure. Alors c'est une start-up aux États-Unis, il y en a pas mal de ce genre-là. En France, très très peu. Des start-up sur des cures de vitamines. On reçoit un petit peu comme finalement Petit Ballon avec le vin. Mais là, c'est la cure de vitamines. C'est ça l'idée ?
Oui, c'est exactement ça l'idée. Épicure, c'est né en fait d'un constat qui est assez simple, qui est que dans la vie, les vies, on est stressé, tout va très rapidement. On n'a pas du tout de culture en France autour de la prise de compléments alimentaires et de vitamines. Et on est dans une vraie logique.
Ce qui n'est pas toujours ça aux États-Unis malgré tout.
Absolument.
Hein. Là, c'est aussi ce qui est intéressant dans votre projet. On est sur quelque chose de made in France, de naturel.
De vegan, de naturel. Et on a souhaité créer, dépoussiérer le marché de la vitamine où, en fait, simplement en demandant à des consommateurs, on s'est rendu compte qu'ils prenaient toujours la même chose, c'est-à-dire du magnésium quand ils avaient un coup de mou ou le fameux cocktail vitaminé que tout le monde vous propose. Et finalement, de rentrer dans un programme, de proposer un programme qui est personnalisé en fonction des petits mots de la personne. Tout ça pour modifier un peu le terrain et aider avec du contenu une modification de son régime alimentaire et la prise de 2 gélules par jour sur epicure.com voilà, pour faire en sorte d'aller bien.
Alors quand je regardais les dernières sociétés dans lesquelles vous avez investi ou dans lesquelles vous êtes associé pour lancer, hein, je disais Yuka, cette application qui nous permet de savoir ce que l'on achète. Il y avait aussi Épicerie qui livre de la nourriture par des commerces de proximité. Là, on parle maintenant d'Épicure. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous spécialiser un petit peu dans la transformation de l'alimentation. C'est ça pour vous le credo de demain ?
Alors, c'est non seulement le credo de demain, et c'est quelque chose, et c'est très important, qui m'anime énormément. Pourquoi ? Parce que je pense que la transition alimentaire, c'est quelque chose qui va pouvoir être opéré que par des entrepreneurs, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il faut faire bouger les lignes.
Par des entrepreneurs, mais par les consommateurs aussi. Ça ne peut pas fonctionner sinon.
Absolument, mais la qualité de l'entrepreneur, c'est justement de comprendre le consommateur, de l'accompagner dans l'innovation en lui proposant des produits qui font sens, qui sont plus transparents, plus authentiques et qui répondent à un vrai besoin. Je pense que l'industrie agroalimentaire...
Est-ce que là, sur ce point-là, Marc Ménazé, est-ce que ce n'est pas quand même le consommateur qui, à la base, a pris le pouvoir et certains entrepreneurs industrialisent derrière ? Parce que sur le mieux manger, sur le fait de consommer moins de viande et sur tout ça, c'est quand même bien le consommateur qui nous a envoyé à nous tous des signaux.
Alors, sans faire de jeu de mots, c'est un peu l'œuf et la poule. Voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Épicerie, qui est une société donc, que j'ai cofondée et financée, qui livre les commerces de proximité chez vous en moins de 30 minutes, existe grâce aux commerces de proximité qu'on a mis dans une app et qui sont livrés derrière. Et aujourd'hui, on a modifié le comportement d'acheteurs parisiens qui commandent dans une app pour se faire livrer leur boucher ou leur poissonnier.
Mais c'est venu aussi du fait que beaucoup de ceux qui peuvent avoir les moyens d'utiliser ce genre d'application n'avaient plus envie d'aller dans les hypermarchés.
C'est vrai, et c'est l'œuf et la poule.
Donc c'est bien une transformation, mais en tout cas vous, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on voit que la façon de consommer, la façon de faire plus attention à soi est en train de considérablement évoluer et d'essaimer dans toutes les couches. C'est ça, malgré tout, pour vous, un des axes importants et de vos investissements, et puis comme vous le disiez, peut-être de ce à quoi ressemblera la société demain.
Exactement, et ce n'est pas seulement le cas dans l'alimentaire, parce qu'on a investi par exemple dans tout ce qui est fintech, donc tout ce qui est innovation autour de la finance, on investit dans des marques d'art de vivre, donc on a investi dans une marque de papier qui s'appelle Papier Tigre, qui est assez connue, dans une marque de linge de maison qui s'appelle Bonsoir, et je dois dire que le dénominateur commun, vraiment de tous nos investissements, c'est qu'en fait, il y a une transparence et une authenticité dans le produit qui est assez forte.
Alors je disais, vous êtes un serial entrepreneur, vous avez vous-même monté directement des entreprises, vous êtes un business angel. On voit ce qui vous anime quand vous choisissez votre projet, mais comment on les choisit ?
On va dire les 3 critères qui nous animent. C'est premier, un critère humain. C'est qu'on a envie d'apprécier de la vision, la personnalité de nos futurs associés. Donc, c'est quelque chose qui est très empirique. C'est quelque chose qui repose sur les relations humaines. Le deuxième point, c'est qu'on va se lancer généralement sur des gros marchés. Ce qu'on aime, c'est un gros marché où la technologie vient apporter, optimiser le marché, créer une proposition de valeur pour le consommateur qui est plus simple, plus efficace. Quand vous prenez Airbnb, que je prends souvent comme exemple, vous aviez des pièces vides dans des appartements où des gens sont ravis d'y venir, c'est typiquement ce qu'on aime. Et le troisième point au fond, c'est qu'on est dans un financement qui est un financement qui doit être durable parce qu'on est des entrepreneurs, ça met du temps pour créer des entreprises et donc on veut des vrais modèles économiques, et les modèles économiques, c'est-à-dire des sociétés qui dans un on
va dire c'est-à-dire qui rapporte
non qui rapporte en tout cas qui ont une logique économique saine plutôt que rapporter.
Et le but vous c'est de les accompagner sur une longue période et vous n'êtes pas là juste pour dénicher hop et partir au bout de 3 ans une fois que ça commence à fonctionner.
Pas du tout. Et d'ailleurs, dans mes associés qui, dans Founders Future, qui sont des grandes familles comme la famille Dassault et d'autres, sont des gens...
Vous avez
qui...
du beau monde. Hein. Vous avez un bout d'LVMH. Les grandes familles vous suivent sur ce projet.
Oui, ils nous suivent parce que justement, on partage, on va dire, des valeurs communes qui sont qu'une entreprise, ça met du temps pour créer. Je dis souvent, on ne crée pas pour faire pour faire un rapport avec l'alimentaire, on ne fait pas un pot-au-feu au micro-ondes. Bah, l'entreprise, c'est pareil, il faut respecter les temps de cuisson.
Merci en tout cas d'être venu nous donner une leçon de cuisine ce soir sur Europe 1. Marc Ménazien, qui a donc fondé Founders Future, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, toujours
Merci
sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne. Avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens, à lire notamment l'édito de Florence Chédotal dans le journal La Montagne intitulé « Un corps en otage ». C'est l'histoire d'un homme silencieux, emmuré dans son corps et condamné au vacarme et à l'indécence autour de son lit d'hôpital. À l'image de cet avocat en transe, croyant sans doute disputer un championnat de foot, on branche, on débranche, on rebranche un être humain. Il n'y a de victoire pour personne, sinon pour l'indignité. Florence Chédotal qui revient évidemment sur le cas Vincent Lambert. L'axe du mal, titre Libération, avec un accent circonflexe sur le A. L'extrême droite contre les femmes, de l'Italie à la Hongrie, de l'Espagne à la Pologne, les partis ultra-conservateurs européens multiplient les coups de boutoir contre la condition féminine. Première cible, l'IVG. Européenne, Le Pen prend la vague, Macron tient, titre pour sa part le journal L'Opinion. Les deux camps sont bord à bord. À 5 jours du scrutin maintenant, Marine Le Pen et ses alliés ont réussi à installer le récit d'une vague nationaliste, tandis que le président français, lui, semble naviguer à vue. Avec un dessin représentant Emmanuel Macron à la une de l'Opinion, Emmanuel Macron en rappelle sur un catamaran qui penche dangereusement du côté des nationalistes. Le président tire de toutes ses forces et il y a une petite bulle au-dessus de sa tête dans laquelle est écrit « Peut-être que je n'aurais pas dû me la jouer perso ». Et puis le Royaume-Uni, déboussolé, titre le journal La Croix, sur fond de discussion sur le Brexit. Les Britanniques seront pourtant les premiers, jeudi, après-demain, à voter aux élections européennes. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Excellente soirée, l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters.